Et vous savez qui sont justement les lecteurs de Millennium? Est-ce que ce sont des lecteurs, des non-lecteurs à la base? Est-ce qu'il y a une certaine tranche d'âge, vous pensez, qui s'y intéresse plus? Hein, vous avez eu des retours de...
C'est impossible à savoir, ça. Tout éditeur aimerait bien avoir une sorte de portrait type de son lectorat potentiel, de ça serait des techniques, bon, elles existent peut-être avec certains éditeurs, style étude de marché, et puis on va faire un produit conforme à l'étude de marché, etc. Non, on revient à ce que je disais tout à l'heure, dans un premier temps, il y a une nouvelle série polar et qui est publiée par Actes Sud, donc il va falloir l'imposer un peu, cette série, imposer un look, tout ça. Donc on a des lecteurs, on va dire courageux, qui se dit tiens, bah c'est pour une fois, je vais pas acheter un série noire ou je vais pas acheter Carré Jaune, Albin Michel, etc. Voyons voir un peu ce que fait Actes Sud là-dessus. Et puis qui aime ou qui n'aime pas, mais on a un lectorat qui s'est dit aussi, ça c'est important, qui s'est dit tiens, un suédois, c'est pas un anglo-saxon. Alors c'est vrai qu'il y a des précédents suédois très costauds dans le polar. Il y a Cheval Valeux, il y a Henning Mankell. Dans les mois qui ont précédé Millennium, voire année, il y avait déjà Indri Dasson, l'Islandais, qui commençait à faire que le polar scandinave avait une sorte de vent en poupe, mais ça c'est un peu aussi des phénomènes passagers. Donc au début on a un bon lectorat qui se dit tiens, je vais pas forcément acheter un best-seller anglo-saxon dans le genre thriller ou criminel, etc. Et puis après, après ça change, c'est-à-dire qu'au-delà de je sais pas, là c'est pareil, on n'a pas de données chiffrées, et tant mieux pour le monde de l'édition qui a encore la foi. Après, il est évident qu'au bout d'un moment, quand la machine s'emballe, que tout le monde en parle, que la presse en parle, que on peut relancer un peu de manière publicitaire les choses, qu'on peut soutenir les ventes, après ça devient une boule de neige et là on élargit de plus en plus l'électorat. Alors maintenant qu'on arrive pour les trois volumes là, en juillet 2008, total pour les trois volumes, quelque chose comme 1 500 000 exemplaires. On ne sait plus qui est le lecteur. C'est-à-dire que ça a dépassé les cadres à peu près habituels. Quand je dis à peu près habituel, moi je vois toutes les années que j'ai passé à publier des auteurs contemporains suédois, comme Torgny Lindgren, Per-Olof Enquist, Göran Tunström. Quand on vendait à 3000 exemplaires un titre, un roman, on se dit, c'est en gros cet électorat potentiel en France, ce lectorat potentiel en France qui aime rentrer en librairie pour trouver des livres qui sont pas les grosses machines, qui ne sont pas les anglo-saxons, qui va se lancer un peu dans des romans. Ah tiens, un suédois, j'ai jamais lu, je vais en lire un. Ah tiens, un polonais, j'en ai jamais lu. Voilà. Donc ça, c'est les lecteurs fidèles. Donc quand on a ces quelques milliers d'exemplaires, on sait qu'on a en gros tenu ce lectorat. Et puis après, on sait plus trop. Ce qui ne veut pas dire que ce soit un mauvais lectorat, ça veut dire que ce sont des lecteurs qui n'avaient pas vu aussi. Il y a une question de visibilité, là, tout à fait normale, on va dire commerciale. Si le livre n'est pas visible sur les rayons d'une librairie, sur les tables, dans les vitrines, le pauvre lecteur, même s'il cherche, ne verra peut-être pas.
Vous nous parliez justement du look de Millennium. Est-ce que vous pensez que cette couverture au graphisme assez atypique a joué aussi une part dans le rôle du succès du livre?
Je vais d'abord finir ce que je disais juste avant. Un élément important, et ça il faut le noter aussi, du succès de Millennium, c'était les libraires. Les libraires et ses lecteurs du début. On l'a vu avant. Juste avant la parution du troisième tome en septembre 2007, ça frémissait. C'est-à-dire que là, on commençait à sentir que on a des libraires fanatiques de Millennium et on a des lecteurs fanatiques qui nous-mêmes nous envoient des courriers, des courriels, etc. À quand le troisième? Là, il y avait cette partie du bon bouquin dont parlent des lecteurs et des libraires. Ça commençait à se sentir. Quant au graphisme, là aussi il faut faire un peu d'historique. Depuis longtemps, depuis ses débuts, chez Actes Sud sont parus des textes littéraires et qui pouvaient être plus ou moins proches du policier ou du thriller. Il y a eu Somoza, il y a eu Garcia Rosa, il y a eu Kerstin Ekman, enfin il y en a eu dans différents domaines linguistiques, il y a eu des choses. Donc l'idée d'avoir une collection plus spécifique, thriller, polar, roman noir, et a toujours été en l'air. Il y avait eu des essais, des démarrages de collections comme ça, Polar Sud, et puis ça c'était plus ou moins enlisé. Et date exacte, je sais pas, mais autour de 2006, d'abord Babel Noir, qui publie du polar français, a été relancé. C'était une collection qui existait, qui s'était arrêtée, donc en poche, avec des textes français. Ça a été relancé par Nelly Bernard, et on se disait à l'éditorial, peut-être est-il temps de relancer une série qui sera Acte Noir. Et puis, j'arrive avec ce fabuleux thriller, et on se dit, c'est l'occasion jamais de la démarrer, cette série. Ce qui, par parenthèse, était un risque géant. Moi, je me souviens de spécialistes du polar, journalistes, qui m'ont dit, mais tu démarres une série avec 3 volumes, donc qui coûtent cher en fabrication, en traduction, etc., d'un auteur décédé, donc on ne pourra pas faire voir au public, on ne pourra pas faire de rencontres, etc. C'est un risque énorme. Très franchement, on n'a pas pensé comme ça. D'ailleurs, on ne pense pas comme ça d'une manière générale dans l'éditorial Actes Sud. On a des coups de cœur, on a des envies de publier, on prend des risques, entre guillemets. Donc, cette série démarre, on se dit, il y aura Millennium, le premier tome dedans. Il y avait d'autres titres que j'avais, puisque j'ai été responsable de cette collection du fait que je voulais un éventail de nationalités, que mon parcours responsable du domaine scandinave, des récits de voyage, de la littérature antipodienne, faisait que j'ai beaucoup de contacts un peu partout dans différents pays du monde, d'antennes, comme je disais tout à l'heure. J'avais un polar qui venait du Botswana, Unity Dao, les cris de l'innocente. Il y avait un nouveau Garcia Rosa qui devait paraître, quelques titres japonais de polar amenés par Rosemary McKinnon-Fayol. Enfin, on avait des titres à mettre dans une série. C'était pas seulement Millennium. Il y a toute une série qui fonctionne avec. Il fallait lui trouver un look, un graphisme de couverture à toute la série et pas seulement à Millennium. Justement, toute la série a ce. On l'oublie un peu maintenant. Justement, c'est cette question de visibilité maintenant. C'est très bien, on voit Millennium, mais il y a une série qui s'appelle Acte Noir avec maintenant une quinzaine de titres d'Allemagne, d'Espagne, des États-Unis, du Japon, d'Afrique. Enfin, il y a des tas de titres. Bon, là, ça a été un travail d'une graphiste en interne, Actes Sud, Sylvia Altero. Elle a fait des propositions. Moi, en tant que directeur de collection, j'avais mon mot à dire. J'avais une volonté nette et définitive, c'est qu'il n'y ait pas de photographie dessus. Je suis pas partisan de la photographie en couverture. J'avais en tête quelque chose qui fasse peut-être un peu penser aux cheap thrillers, là, aux polars pas trop chers, pocket des années 50 américains, comme ça, un graphisme. Moi, quand j'étais gamin, je volais, excusez-moi, c'est un aveu, des polars à je ne sais pas combien de francs, mais pas beaucoup, dans les prises uniques, couverture noire, une belle blonde, la muraille du Kremlin derrière, ou une autre belle blonde avec un poignard, un type avec un chapeau. J'avais ça en tête, bon, mais là, avec la couleur, cadré chromie, et je me dis, bon, on aura une vignette, ce style-là. Puis on a travaillé sur une maquette comme ça, un liseré rouge, soyons francs, on pensait liseré jaune, la série noire, qui n'avait plus ce liseré jaune, puisqu'elle avait changé. J'avais en tête, moi, à un moment, le bleu gyrophare police. On a travaillé là-dessus, il y a eu des pour, des contre, il y a eu même beaucoup de contre, beaucoup de gens, et y compris dans les quelques rares journalistes qui ont parlé de Millennium au départ, ont dit les couvertures totalement ringardes. Hein. Alors après, avec le succès, les choses changent. On vous dit ces superbes couvertures gothiques. Et puis autre chose, bon, pour le petit détail de l'histoire, c'est vrai qu'il y a 3 tomes de Millennium. On avait prévu, enfin moi-même, j'avais avec Sylvia, on avait trouvé un illustrateur américain qui est John Jess, avec des truc un peu punk rock comme ça, génération No Future, qui correspondait selon moi à Millennium. On avait trois vignettes possibles, et puis là il y a eu discussion en interne, non c'est trop dur, c'est trop trash, etc. Donc le premier tome, je suis innocent, un dessin de qui est la famille Adams, etc. Mais qui peut-être aussi a aidé à fonctionner. Peut-être que c'était moins trash, on va dire, et que les lecteurs convaincus, après, ont apprécié dans le deuxième et le troisième de retrouver ce côté No Future.
Et vous êtes aussi, en fait, traducteur, donc avec Lena Grumbach, on l'a dit, de Millennium. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés spécifiques de traduction du langage suédois à la langue française ?
Retour sur un peu l'arrière-plan. Donc avec Lena Grumbach, on traduit depuis 30 ans, même plus. Hein, début des années 70, on a commencé à traduire ensemble. Donc beaucoup d'auteurs contemporains, mais aussi des classiques, Strindberg, Lagerlöf. Donc on a elle est suédoise, donc on travaille à deux mains ou à quatre mains. On a des fonctionnements. Elle pose des questions, j'en pose. On a nos techniques, on va dire, de traduction. Millennium n'en posait pas de questions terrifiantes. Bethsabée, par exemple, de Tony Lindgren, où il faut trouver un ton quasiment biblique, ça impose de lire la Bible, de s'inspirer d'un rythme, etc. C'est autrement plus difficile. Là, on a, on va dire, une histoire simple à écrire. Par contre, se posait avec Millennium, mais ça on le savait déjà, le problème du tutoiement. Dans les années 60 en Suède, il y a eu, c'était à l'époque où j'habitais là-bas d'ailleurs, il y a eu un passage obligé, systématique, fixé comme ça par décret, comme ils sont passés de la conduite à gauche à droite, et on est passé des trois formes de politesse. Enfin, des trois formes d'adresse à une personne, qui était le tu, le vous, et en Suède existe cette forme qui existe aussi en Angleterre. Est-ce que monsieur le professeur veut bien s'asseoir? Enfin, une troisième personne. Donc, on est systématiquement, ça a été le tu. Ce qui fait que un pompiste qui fait le plein d'un professeur d'université lui dit « je te fais le plein », et l'autre lui dit « oui, tu me le fais ». Enfin, bon, alors, au fil des années, les Suédois ont un peu habitué à jongler avec ça. Moi, je pense que, en tout cas, le lecteur français, alors on trouve des traductions actuellement de textes suédois où le tu est systématiquement posé. Moi, il me gêne un peu, j'ai un peu un principe avec Lena, on est parfaitement d'accord, de traducteur qui est de, c'est pas utile forcément de bloquer le lecteur. Enfin, si le lecteur voit un jeune parler à un prof, on va dire, ou un juge à la Cour suprême, en lui disant tu, le lecteur, il va peut-être s'arrêter une demi-seconde. Peut-être pas celui qui est habitué à des lectures scandinaves, à un milieu scandinave, mais il va dire tiens, c'est quoi ce tu? Je fais remarquer par parenthèse que actuellement, certaines personnes ont dit mais pourquoi le tu, le vous, fallait rester au tu, etc. Pas seulement sur Millennium, mais sur d'autres textes scandinaves. Jamais personne ne s'est posé la question sur les traductions de l'anglais. Alors que pourtant qu'en anglais, il y a une seule forme, le you, et depuis des dizaines d'années, les traducteurs de l'anglais ont droit d'utiliser le vous ou le tu suivant les personnes. Et alors là, parce que brusquement, des gens découvrent qu'en Suède, de tu, etc., on saute en l'air. Pour l'anglais, ça n'a pas posé de problème. Moi, j'estime que dans la traduction, quand de manière flagrante il faut passer au vous, on peut le faire. Donc on ne l'a pas fait systématiquement. Quand deux officiers de police parlent, on a gardé le tutoiement. C'est deux journalistes entre eux, ils gardent le tutoiement. Ça se fait de plus en plus en France, ça ne pose pas de problème. Entre collègues, d'emblée, même sans période d'adaptation, on passe au tu. Par contre, pour certaines personnes, on a préféré le vous. Quitte, et ça doit être deux fois sur les 2000 pages, à rajouter une petite phrase qui dit « Tiens, maintenant, on peut passer au tu. » Une autre fois, on est passé directement au tu sans phrase intermédiaire ajoutée parce qu'il y a une exclamation, quelqu'un s'emporte, je ne sais plus exactement la situation, on se dit, situation où là, la conversation s'emballe, les trucs, là, il passe au tu. Bonne occasion, voilà. Parce que c'est difficile aussi de garder... Après, de jongler sans arrêt avec voire TFCM. Bon, ça, c'était une des choses sur la traduction. Je peux mentionner aussi la traduction des titres, parce que en Suède, les volumes sont parus sous des titres légèrement différents des titres français. Donc, des gens me disent, tiens, en France, ils n'ont pas pris les mêmes titres. C'est pas vrai, c'est pas totalement exact. Nous avons commencé, comme je disais tout à l'heure, très loin en amont, avant la publication même en Suède, avec les titres voulus par Larsson. C'est en Suède l'éditeur qui, au moment de la parution, a simplifié les titres. En Suède, c'est Les hommes qui n'aiment pas les femmes, La fille qui jouait avec le feu et Drottningen i Luftslottet, qui est un peu la reine des châteaux en Espagne. Alors, pour la reine des châteaux en Espagne, il est évident qu'on ne pouvait pas dire Espagne, Suède, bon, ça, on va pas tout mélanger. Donc on a choisi s'amuser en traduisant littéralement Luftslottet, palais des courants d'air, la reine dans le palais des courants d'air. Puis c'est sympa. Mais le deuxième volume, le titre voulu par Larsson était Häxan som drömde om bensindunk och intensitika. C'était la sorcière qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Et là, on s'est dit, non, Elisabeth Salander, c'est pas une sorcière, c'est une fille. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Et le premier tome, le titre est le même, sauf que là, nous sommes passés au passé. Question de sonorité, je saurais même plus très bien dire pourquoi. Les hommes qui n'aiment pas les femmes, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Ça, on pourrait maintenant se dire, tiens, maintenant, j'aurais pas choisi de passer au passé. Mais ça, ça fait partie du subjectif du traducteur que j'assume totalement. Et dans d'autres pays, les titres ont été différents. Le premier tome est paru en Angleterre sous le titre « The Girl with the Dragon Tattoo », la fille avec un tatouage en forme de dragon. Donc, mais ça c'est du, pour moi, tout à fait normal. Bon, mais ça c'est pour la traduction. Autre problème, il y en a eu aussi. Ça c'est les petits secrets dévoilés au lecteur ou à l'auditeur. Justement, comme on a travaillé sur un manuscrit de départ et juste après le contrôle avec les épreuves avant parution, il restait dans l'édition suédoise des erreurs. Une porte à droite qui passait à gauche, un gars qui s'appelait Beckman, qui s'appelle Bergman, enfin des changements comme ça que nous avons parfaitement vu en tant que traducteur, parce qu'on passe plus de temps sur le texte. Donc on a signifié à l'éditeur suédois, ça a été corrigé dans la deuxième traduction. Mais ce qui fait que nous on a un ou deux personnages qui n'ont pas tout à fait le même nom. Mais là aussi ça m'amuse parce que je sais bien qu'il y a des lecteurs très attentifs et voire suédophones qui ont dit « Ah, mais il y a un tel ou une telle qui n'a pas le même nom en Suède et en France. » Oui, mais Fifi Brin d'Acier, personne n'a remarqué qu'en fait, elle ne s'appelle pas Brin d'Acier, mais Longue Chaussette, et qu'elle s'appelle pas Fifi, mais Pipi. Donc voilà, c'est assez parti pour moi du travail totalement normal du traducteur, d'être tout à fait cohérent dans sa démarche. Après, peut avoir une ou deux critiques, mais en tout cas les traducteurs en l'occurrence là, ont bossé. Les éléments, à part ici peut-être ou là un oubli, sont voulus, sont travaillés en tout cas. Et puis je crois qu'au niveau des traductions, c'est à peu près tout. Il y a des moi j'aime pas trop par exemple OK. Alors c'est vrai qu'en Suède, dans la vie courante, mais comme en France, mais il y en a peut-être un peu plus en Suède, il y a l'habitude de prendre des mots anglo-saxons. Moi j'évite un peu systématiquement, donc les OK deviennent des d'accord. C'est un peu une position anti-anglicisme, on va dire, on dit des choses comme ça, mais rien de grave.
On a entendu parler d'un quatrième volume de Millennium, comme quoi il y aurait un début de texte retrouvé dans un ordinateur par l'ami de Stieg Larsson. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que vous savez si ce texte existe vraiment?
Moi, je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Alors, faut replacer les choses dans son contexte. On l'a pas encore fait. Stieg Larsson était un journaliste, rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Expo, qui était un observatoire des manifestations ordinaires et dangereuses de l'extrême droite et du fascisme ou nazisme scandinave. Donc quelqu'un de très engagé dans l'observation de la société, très vigilant, assurant des conférences dans les lycées, était en contact avec des institutions policières comme Scotland Yard, comme observateur des dérives antidémocratiques. Ce monsieur travaillait donc dans une revue, menacée d'ailleurs, Expo. Il a un ordinateur de travail, je suppose qu'il écrit dessus, aussi bien des courriers personnels, voire des petits trucs, des délires personnels, j'en sais rien. Enfin, comme nous tous, voilà, on a un ordinateur, c'est un peu celui du boulot, c'est un peu personnel, etc. Je suppose, bon, ça aussi il l'a écrit, donc c'est certifié par lui, qu'il comptait écrire 10 volumes. Millennium 3. Finit quelque chose, finit plusieurs histoires, et c'est, ça peut s'arrêter là, mais il a envisagé 7 volumes supplémentaires. Donc on peut se dire qu'ayant achevé le troisième, il avait déjà peut-être entamé un quatrième, voire un cinquième, enfin on peut délirer pas mal. Moi, ce qui m'intéresserait plus, ça serait d'avoir son plan. S'il en avait 10 en tête, il a peut-être quelque part des tomes 7, tomes 8, dans lequel Lisbeth fait ceci, la sœur de Lisbeth revient, on va parler de non plus de finances, mais d'un voyage en Afrique, enfin je ne sais pas quoi, enfin ça serait passionnant à voir. Donc, mais on peut se dire que oui, alors après, alors Stieg Larsson vivait en concubinage, hein, c'est le terme légal, avec une femme depuis une trentaine d'années, n'était pas marié. Il a été dit que c'était pour des raisons de sécurité, parce qu'il était menacé par l'extrême droite, qu'il n'était pas marié. Un de ses collègues journalistes avait été abattu par l'extrême droite après son mariage, parce que du coup son nom, son adresse était apparu dans les registres de l'état civil et ce genre de choses-là. Alors jusqu'où allait la crainte trop forte, ou le, enfin bon, en tout cas il n'était pas marié. À son décès, il avait signé un contrat d'auteur avec un éditeur Norstedts. Donc l'éditeur, il y a des droits d'auteur. Les héritiers légaux, parce que le concubinage n'est pas admis par la loi suédoise comme raison d'héritage, hein, bien sûr. Les héritiers légaux sont un frère et un père. Le père de Stieg Larsson et le frère de Stieg Larsson. Alors on a dit qu'ils n'avaient pas vécu réellement ensemble pendant plein d'années, donc ces gens n'avaient pas touché d'argent là-dessus. On a dit qu'Eva Gabrielsson, sa compagne, devait toucher des droits, etc. Enfin bon, il y a tout ensuite la légende, pas la légende, mais l'amplification, et souvent sans trop savoir. Et puis la défense un peu comme ça par principe, on va dire de la veuve. Enfin, bon, c'est compliqué. Donc alors, reste-t-il des pages dans les mains d'Eva Gabrielsson? Y a-t-il un quatrième manuscrit encore dans l'ordinateur qui appartient à la revue Expo ou qui est conservé par Expo? Voilà, bon, après on peut s'amuser à penser là-dessus ou à extrapoler. Ce que je trouve étonnant, c'est que on a un dédoublement de Millennium, quoi. On a une histoire très actuelle de la société, héritage, concubinage, justice qui n'accorde pas de droit, qui prolonge 2000 pages d'une histoire très contemporaine avec journalisme, police, société, bande de jeunes, etc. Enfin, c'est assez curieux comme déjà dans Millennium il y a des personnages réels. Il y a Paolo Roberto, qui est un boxeur qui existe en Suède et sous ce nom-là, et qui s'occupe de réinsertion de jeunes des cités, etc. Il y en a un autre personnage réel, j'ai perdu pour l'instant, oui, c'est Kurdo Baksi, qui est un émigré installé en Suède depuis très longtemps, d'origine kurde, et qui a monté une revue, Svartvit, pour l'intégration, le dialogue entre les cultures, etc., qui lui aussi est un personnage qui, dans le roman, existe sous son nom, que Stieg Larsson appelait « mon frère ». Et donc déjà dans Millennium il y a des éléments réels et concrets, des personnages politiques, Olof Palme qui est derrière, et puis c'est dédoublé dans l'après Millennium par une sorte d'imbroglio qui est très contemporain. Ça c'est pour le moins curieux.
Marc de Gouvenin, une dernière question. Pensez-vous que le succès de Millennium va avoir une influence sur les auteurs suédois, enfin sur la lecture des auteurs suédois, et même au-delà, en fait, une influence justement sur le suspense à travers le monde?
Question passionnante pour moi, parce que tout à l'heure on parlait un peu de la structure du millénium, le contemporain, les anti-dérives totalitaires, etc. Un élément, l'écriture du millénium est addictive, entre guillemets. Il y a un fonctionnement dans l'écriture, on prend un personnage, quelques pages, et puis point de suspension, point de suspension. Le lecteur a envie de bouffer de la page sans arrêt, ça paye. Page-turner, comme disent les anglo-saxons que je n'appréciais pas tout à l'heure. On tourne les pages comme ça, on a envie de continuer. Ça n'est pas nouveau comme fonctionnement de l'écriture, des tas d'auteurs l'ont fait. Intéressant quand même, c'est que c'est le fonctionnement des séries télé américaines et puis reprises après, où un nouveau personnage arrive, puis 1, 10, 2, 3, 5, 10, 15, comme ça, puis à chaque fois on a envie d'en savoir un peu plus, ça fonctionne très bien. Je disais tout à l'heure que j'avais pensé à James Hadley Chase en lisant Millennium la première fois, je pensais aussi à Six Feet Under, série excellente américaine, pas toute bonne, mais celle-là est excellente. Et j'avais cette même impression qu'on a de plus en plus de personnages, mais que tout tient et tout donne envie de les connaître et de continuer. Mais pour en revenir à votre question, moi je suis convaincu que c'est pas forcément Millennium, mais c'est cet ensemble-là. Alors Millennium, si c'est un énorme succès, oui, ça veut dire plus de lecteurs, donc plus d'influence au niveau de l'écriture. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que, pour moi, un romancier, alors c'est peut-être très prétentieux de dire ça, ne peut plus forcément écrire comme on a écrit jusqu'à présent. Ça n'empêche pas le livre introspectif, ça n'empêche pas le bon petit roman à deux personnages ou à trois personnages, ou le roman poétique, enfin, tout ça, bien sûr, liberté, hein. Et pluralité, mais je pense que des auteurs vont soit directement, soit insidieusement être influencés par ça et se dire tiens, mais il y a une manière, une technique, une habileté à la présentation des personnages, à la progression, etc., mais qui viendra aussi bien de Millennium que d'autres romans conçus de la même manière que des séries télé, quoi. Tout bouge en même temps, c'est un ensemble. En tout cas, je suis sûr que ça aura une influence certaine. Est-ce que ça sera plus proprement scandinave? Non, là, ça fait quelques années déjà que les Scandinaves, il y a peu d'auteurs de grands et bons livres, comme il y a eu toute la génération des Tunström, des Enquist, des Lindgren, Ekman. Il y a eu beaucoup d'auteurs, on va dire, mineurs de polar. Oui, ça peut influencer des gens qui ont envie d'écrire du polar, mais il y aura aussi saturation à ce niveau-là. Faut pas non plus trop exagérer, proliférer. Mais dans le roman, je pense qu'il peut y avoir une influence énorme. Et côté du lectorat français, on le voit maintenant, on nous parle beaucoup de le succès de ces auteurs scandinaves. Restons là encore froid. Le vrai succès dans le polar, ça reste quand même le polar américain. De même que dans le cinéma, ça reste le film polar ou noir américain. Oui, Millennium a percé, Nesbø perce un peu, j'ai mentionné tout à l'heure Sturluson, Indridason, oui, il y a quelques auteurs comme ça qui sont marquants et qu'on repère mieux. Mais ça, c'est peut-être pas forcément l'âme de fond qui va durer très longtemps.
Marc de Gouvenat, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Bonne audition.
Merci.